Une question pour vous, pour commencer. Êtes-vous déjà passé à côté de quelqu'un sans vous rendre compte de qui c'était? Étiez-vous en compagnie de quelqu'un sans le voir? Tu étais assis à côté d'elle, mais tu ne te rendais pas compte que c'était la directrice, par exemple. Ou tu es passé devant le bistrot sans savoir qu'à l'intérieur, il y avait un acteur célèbre. Où tu as fait les 20 km de Bruxelles sans savoir que tu marchais à côté de la reine Mathilde. Parfois, on voit des gens ici à Bruxelles qui sont interviewés avec des caméras et on regarde et on ne sait pas en fait qui c'est. Qui est cette personne? On peut passer très facilement à côté de quelqu'un sans le remarquer. Se tromper sur l'identité réelle de quelqu'un qu'on voit pourtant devant nous et on se dit on ne sait pas qui c'est. C'est quelque chose qui s'est passé avec Jésus de Nazareth. Et j'aimerais prendre le temps de réfléchir ce matin. Ce temps pour réfléchir à qui il était. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Qui était-il? Je sais que tous ne croient pas en lui, vous êtes les bienvenus ce dimanche, comme tous les autres dimanches. Si Jésus a un souvenir d'enfance pour certains, ou peut-être qu'il est complètement inconnu, il vaut la peine de s'informer dans plus de détails en tant qu'adulte. On a entendu comment François, qui a eu des cours à l'école, cours de religion, mais il a voulu s'informer lui-même pour vraiment savoir qui était cet homme, pour ne pas passer à côté du plus grand homme qui ait jamais vécu et qui était plus qu'un homme. Nous croyons, et nous le voyons aujourd'hui, avec le baptême de François, que la vie peut être tout autre si elle remet Jésus à sa juste place. Et pour cela, je vais simplement vous raconter deux histoires qui viennent de la Bible, deux histoires vraies qui sont issues de deux évangiles. Et le premier extrait va être lu par Zach. Zach qui est un étudiant de l'IBB qui a été avec nous cette semaine. On a eu une équipe d'étudiants qui est venue aider notre église pendant cette semaine. Et Zach va lire l'évangile de Luc, chapitre 18. On peut projeter aussi, donc vous pouvez le suivre, mais vous pouvez le trouver dans votre Bible, Luc, chapitre 18, 31 à 43. Je vais prendre le micro ici.
Luc, chapitre 18, à partir du verset 31. Luc chapitre 18, à partir du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils n'y comprirent rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé !» À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu.
Merci. Dans les différences de traduction, là, vous avez entendu, il y a différentes façons de traduire la Bible. Le sens est le même. Parfois, il y a un langage un peu plus vieux ou un langage plus moderne. Le sens est quand même transmis. Alors, gardez la Bible ouverte devant vous parce qu'on va essayer de regarder ces versets et puis on va regarder aussi un autre texte en l'Évangile de Jean. Mais on va voir trois choses. D'abord, les disciples ne l'ont pas compris. Et cette phrase est peut-être assez étonnante. Vous avez entendu que quand Jésus leur parlait, ils ne comprenaient pas. Ces personnes qui étaient pourtant bien informées. Et puis nous allons voir que l'aveugle a compris. Et nous allons comprendre ce que l'aveugle a compris. Et puis on va se réjouir du fait que les aveugles voient. Parce que Jésus a fait un miracle. Non seulement auprès de cet homme aveugle, mais aussi d'un autre. On va parler tout à l'heure. François, que vous venez de voir baptiser, est un homme intelligent, un homme studieux, rigoureux dans ses réflexions. C'est l'opposé, si je peux dire, de la caricature du croyant naïf. Mais même avec son intelligence, n'est-ce pas remarquable qu'il n'a pas compris tout de suite? Et il a fait des recherches, il a réfléchi, il a lu, il s'est informé. Pourtant, il s'est rendu un peu au bout de ses réflexions en disant « Je n'arrive pas à vraiment comprendre par moi-même. » Un peu comme les disciples qui ont eu du mal à comprendre tout de suite ce que Jésus leur annonçait, parce que c'était vraiment surprenant. Alors voyons ce que les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Jésus qui parlait de sa croix et de sa résurrection. Jésus a annoncé sa mort. Alors beaucoup de gens savent qu'ils vont mourir, mais très peu de gens savent décrire les circonstances exactes de leur mort. Et c'est ce que Jésus a fait, à l'avance. Alors il avait déjà essuyé beaucoup de refus et d'opposition de la part du peuple juif, mais ce ne serait pas eux qui le tueraient. Vous avez vu le détail? Il a dit, ce seraient des non-juifs. Et effectivement, c'était les Romains qui l'ont mis à mort. Ce que Jésus annonce ici, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est moqué de lui, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a fouetté et puis on l'a fait mourir en le tuant sur une croix. Alors la question qui devrait se poser à ce stade, avant d'aller plus loin, c'est si tu sais que ça va se passer, pourquoi y aller? Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas si je vais à Jérusalem, on va me mettre à mort. Donc, on ne va pas aller à Jérusalem. Ce serait plus logique, non? D'utiliser sa connaissance de l'avenir pour éviter de mourir. Il y a deux raisons pourquoi il choisit d'y aller quand même. D'abord, la mort de Jésus va accomplir des prophéties de la Bible. Verset 31, il le dit explicitement, n'est-ce pas? Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, va s'accomplir. Le Fils de l'homme, c'était un titre parce que, en fait, dans l'Ancien Testament, un prophète avait vu quelqu'un dans le ciel qui recevait l'autorité sur tous les pays du monde. Et cet homme-là, il est décrit comme un Fils de l'homme recevant l'autorité de Dieu sur le monde. Jésus recevra cette autorité. Mais d'autres prophéties bibliques ont annoncé que Jésus serait le serviteur de Dieu qui mourrait en portant nos péchés. Et Jésus, par sa mort, va accomplir ces prophéties. Mais en plus, Jésus, par sa mort, va accomplir le salut. Il va sauver des gens. Dieu l'a fait. Voici comment c'est décrit plus tard dans la lettre aux Romains. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et les disciples, quand ils entendent que Jésus va mourir, qu'est-ce qui est dit dans notre chapitre, verset 34? Ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Les 12 disciples n'étaient pas plus intelligents que nous. Ils connaissaient assez de la Bible pour savoir qu'ils attendaient effectivement un Messie. Ils avaient compris les prophéties pour voir en Jésus le Fils de l'homme. Ils avaient raison. Mais ils n'avaient aucune idée que leur ami et leur enseignant allaient mourir. Ce que les gens, là, ne comprenaient pas, parce que c'était si peu familier. Je pense que nous pouvons ne pas le comprendre, parce que c'est trop familier. N'est-ce pas? On connaît. Oui, on connaît Jésus, la croix, ben voilà, il y a des croix partout. Le symbole du christianisme, c'est la croix. On sait bien que c'est associé avec Jésus. On voit beaucoup de crucifix, d'images de Jésus sur une croix. Pâques, il y a plein d'images de ça en tête, n'est-ce pas? On est familier avec ça. Mais on ne comprend pas le sens dans la familiarité qu'on a avec le fait que Jésus meurt à la croix. Voici le sens de cette mort. Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » C'est en Jean 15, verset 13. Cet amour-là était le sien. Il a voulu mourir en donnant sa vie pour les autres. Un peu comme un soldat qui va au front, qui sait qu'il va mourir, mais qui est prêt à payer ce sacrifice ultime, parce qu'il veut sauver sa famille, il veut sauver son peuple. Jésus annonce qu'il va mourir, il annonce pourquoi il va mourir, et puis il y va, et il meurt. Et nous devons comprendre cela, nous devons saisir cette chose énorme, coûteuse, qu'il a faite par amour pour nous. Il a accompli une œuvre qui est suprême dans sa valeur. Un amour immense. Vous vous souvenez les petites machines à 5 francs dans les supermarchés où on pouvait mettre 5 francs et tourner et recevoir un bonbon ou un jouet. Parfois, je me souviens, il y avait des petits colliers en sucre qui étaient dans une boule. Les colliers en sucre, je ne sais pas si ça se vend encore aujourd'hui. Petits colliers comme ça, et alors on les mangeait petit à petit au fur et à mesure que la journée avançait. Imaginez maintenant un collier de sucre. Et quelqu'un d'autre vous donne un collier de perles précieuses ou de diamants. Quelle différence de prix entre le collier de sucre et le collier de perles précieuses. Et je pense qu'on est un peu comme ça lorsque nous recherchons de l'amour de la part de nos amis, ou d'une femme, ou d'un homme, ou de nos parents. Ça, c'est un amour qui nous fait du bien, bien sûr. Mais à côté, il y a un amour inestimable dans sa valeur. L'amour de Dieu pour nous. L'amour de Christ qui fait qu'il est prêt à donner sa vie pour nous. Ça, ça a de la valeur. Alors puis Jésus a parlé de ressusciter, les disciples n'ont pas compris ça non plus, regardez. Quand ils parlent de ça, c'est obscur, ils ne comprennent pas. Il y a des promesses immenses dans la Bible, vous savez. Les disciples entendaient déjà Jésus parler de la vie éternelle. À un moment, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'a pas dit ce que nous dirions, il y a une résurrection et il y a une vie. Il a tout centré sur lui. Je suis la résurrection, je suis la vie. Il a ajouté, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire, tu crois, tu meurs et puis tu vis avec le bonheur d'être avec Dieu. C'est un des exemples. Mais il y a tant de grandes promesses de Dieu, de Jésus. Et comment savoir si cette promesse est vraie? Comment savoir si Jésus va vraiment nous donner la vie éternelle, s'il y a vraiment un au-delà et qu'il veut vraiment nous ressusciter, qu'il peut vraiment le faire? Alors Jésus nous donne des raisons de croire. Il sait que c'est difficile à croire. Et donc il nous donne des raisons de croire. Jésus prouve qu'il peut donner la vie après la mort, parce que lui-même, après sa mort, son tombeau était vide. Ils étaient nombreux à aller là le dimanche matin, en disant « on sait où il a été enterré ». Et non seulement la pierre avait été roulée, mais le corps n'était plus là. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le corps. Personne n'a jamais trouvé le corps de Jésus. Il a été vu vivant à de nombreux endroits, nombreux moments, par de nombreuses personnes. Et ça, c'est l'histoire de Pâques. Revenez la semaine prochaine. On va parler un petit peu plus de l'homme aveugle. Ce que l'homme a compris qui était à Jéricho, qu'est-ce qu'il a compris, l'aveugle? J'aimerais préciser cela, si je peux résumer ce qu'il a compris de Jésus. C'est la pitié et la puissance de Jésus. Vous savez que même à l'époque, les nouvelles vont vite, et on entendait ce qui se passait, l'info circulait de bouche à oreille. Il n'avait jamais vu Jésus, mais cet homme-là savait que Jésus était quelqu'un qui avait la puissance et la pitié. Voyez comment l'homme s'adresse à lui, malgré que les autres lui disaient « tais-toi, arrête de parler ». Il dit « Jésus, fils de David », et il crie pour avoir son attention. Jésus, fils de David. David, c'était qui? C'était un roi longtemps auparavant, le roi David. Des siècles avant Jésus-Christ. qui avait reçu une promesse qu'un jour, un de ses descendants viendrait, qui régnerait pour toujours. Ce serait le Messie. Donc là, l'homme aveugle est en train de nommer Jésus comme le Messie, le roi promis par Dieu. Pour l'aveugle, c'était clair. J'ai rencontré un jour un homme aveugle. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte de combien de fois je dis « tu vois » dans la conversation. Alors là, on est à Bruxelles, tu vois, c'est une belle ville. Ah, c'est une belle journée de printemps aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, ce qui est amusant, c'était que lui aussi, il disait « tu vois » ou « je vois ». Ah ouais, je vois, je vois. Il ne voyait absolument rien. Alors cet homme-là, il a vu que Jésus était le Messie, avant de le voir avec ses yeux. Et plus que ça, regardez ce qu'il demande à Jésus. D'abord, il s'écrit, verset 38, « Aie pitié de moi ». Et puis il va lui demander de le guérir, « Guéris-moi ». Vous savez, ce n'est pas ce qu'on demande à un roi ordinaire, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous guérisse. Un homme ordinaire, un roi ordinaire ne peut pas faire cela. En fait, c'est une demande à Dieu pour sa miséricorde et pour sa guérison. N'est-ce pas étrange, à la lumière de ce que nous venons de voir ? Jésus a dit « Je vais mourir à la croix ». La réaction normale serait « J'ai pitié de toi ». Oh, pauvre Jésus, que tu vas aller mourir à la croix. Imaginez que vous êtes à l'hôpital et pour toi, c'est une opération au genou, par exemple, d'accord ? Donc, tu es dans ton lit d'hôpital. Je ne sais pas si les hôpitaux s'organisent comme ça, mais à côté, dans l'autre lit, c'est quelqu'un qui a un problème cardiaque. Il va avoir une opération au cœur. Et il dit, j'ai 9 chances sur 10 d'y passer, de rester sur le billard. Discuter un petit peu. Quand il s'en va à l'opération, est-ce que tu lui dis, aie pitié de moi ? Ben non, évidemment. Toi, avec ton petit genou, là, ça va ? Lui, on devrait avoir pitié de lui, attention, voilà. Mais cet homme, il est en train de parler à Jésus qui est sur sa route vers la mort, certaine. Et pourtant, il lui dit, aie pitié de moi. C'est parce que cet homme, en fait, a vu les choses différemment des autres. Au-delà des apparences, il sait que Jésus, qui est mourant, est aussi son seul espoir, parce que lui, le mendiant, il est perdu sans la grâce de Dieu. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, elle est utilisée par lui, mais juste avant, dans le même chapitre de l'Évangile de Luc, ces mêmes mots sont utilisés dans une prière. Chapitre 18, verset 13, c'est dans une histoire que Jésus raconte. Le collecteur d'impôts n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Voilà la vraie situation. Quand on comprend qu'on est pécheur, mais qu'on comprend que Dieu est un Dieu de miséricorde, alors on demande la pitié de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de demander en demandant la pitié de Jésus. Et puis il demande la guérison. Parce que non seulement il veut la pitié de Dieu, il veut le pardon de ses péchés, mais il veut aussi pouvoir voir, et c'est normal, c'est bien de pouvoir retrouver la vue. Il a entendu que Jésus guérit les gens, et c'est ce qu'il a fait. Et donc il veut recevoir cette guérison, et il sait que Jésus est puissant pour cette œuvre extraordinaire. Cette semaine, avec l'équipe de l'IBB, nous avons rencontré beaucoup de gens. Nous sommes allés à différents endroits pour rencontrer des gens. Et ce qui m'a frappé, par-dessus tout, c'est qu'il y a des besoins partout. Ici, à Bruxelles, il y a beaucoup de gens nécessiteux. Je ne parle pas de nécessiteux sur le plan économique, pas seulement. Mais les gens sont abandonnés. Ils sont opprimés. Parfois, ils sont opprimés par le travail ou le manque de temps. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont pressés, opprimés par l'inquiétude, esclaves de la boisson ou de la drogue, blessés profondément par leur vie. Et j'avais l'impression que ces gens sont en train de se cacher. Ils vivent sans Dieu. Ils ont dit un peu comme François, « Dieu est mort, je m'en vais, je vais vivre ma vie. » Mais le malheur ne les fait pas réfléchir. Est-ce que j'ai fait le bon choix, en fait ? Alors, je ne dis pas cela pour me féliciter. Je ne suis pas meilleur que les autres. En fait, nous sommes tous les mêmes. C'est ce qui m'a frappé aussi. On parle à des gens qui sont nécessiteux et on se dit, oui, moi aussi, nous aussi, nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, nous sommes perdus. La seule différence entre nous est que certains l'ont cherché et trouvé, et d'autres l'ont fui. Alors l'homme ici, il cherche, il appelle, il demande à Dieu d'intervenir dans sa vie. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être guéri si on lui demande ? Ben, Dieu pourrait vous guérir, mais il pourrait aussi vous laisser dans votre maladie. Mais la chose la plus importante qu'il va faire, en fait, ça va être dans votre vie spirituelle. Il veut faire une œuvre à l'intérieur de vous pour vous donner une vie spirituelle, une nouvelle relation avec lui. Alors, on va parler un petit peu de l'homme, un autre homme qui a été aveugle, qui a été guéri, en Jean chapitre 9. Cet homme-là était aveugle depuis sa naissance. Il n'avait jamais rien fait pour mériter cela. Ce n'est pas une punition pour ses fautes, mais un défaut dès sa naissance. Il est né avec cet handicap. Et Jésus l'a guéri aussi, miraculeusement. L'homme va voir, pour la première fois de sa vie, il va voir, mais il y a un hic. C'est que Jésus l'a guéri. Vous savez quel jour c'était ? C'était le samedi. C'était le samedi. Alors c'est un détail, mais c'est vrai que souvent les évangiles relatent exactement ce qui s'est passé, où, quand, l'homme s'appelait comment, on était où, c'était quel jour de la semaine, précisément pour qu'on soit sûr que c'est de l'histoire et pas une histoire. Mais c'était un samedi, et ça, en fait, pour les religieux extrémistes, ce n'était pas acceptable, parce qu'on ne doit pas travailler en tant que médecin le samedi. Nous, c'est le dimanche qu'on prend souvent pour se reposer. Mais ces hommes qui étaient les pharisiens, donc les extrémistes religieux, ils doutaient de tout. Ils doutaient de même si c'était cet homme-là qui avait été aveugle avant. Parce qu'ils constataient que maintenant, ils voyaient. Est-ce que c'était vraiment lui ? Ils appellent ses parents. Les parents disent, oui, c'est vraiment lui. On ne sait pas comment, mais non, maintenant, ils voient, mais c'est vraiment notre fils. Et les pharisiens ne voulaient vraiment pas y croire. Vous savez que parfois, même quand on fait quelque chose qui est impressionnant, même quand il y a un signe de la part de Dieu, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent « Ah non, j'y crois pas ». Alors voyons ce que cet homme a dit à Jésus. Je vais lire en Jean, chapitre 9, quelques versets, en commençant verset 35, à la fin de cette histoire avec un homme aveugle, qui n'est pas le même qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un autre. Jean 9, 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ou crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Les aveugles voient, et que voient-ils ? Ils voient que Jésus est le seul sauveur. Il a cru que Jésus était le Fils de l'homme qui avait été annoncé par les prophètes. Et vous avez remarqué sa réaction ? Il adore Jésus. Il se prosterne devant lui. Vous avez sans doute entendu parler des 10 commandements. Les 10 commandements de la Bible qui donnent la volonté de Dieu, la volonté morale de Dieu. Et les deux premiers disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te prosterneras pas devant une idole » ou devant une représentation de quelque chose. Dieu seul doit être adoré et peut être adoré. Mais Jésus accepte l'adoration de ce monsieur. Il accepte que ce monsieur se prosterne devant lui, parce qu'il est Dieu. François a fait de longues études bibliques comparatives pour arriver à ce constat. Il a fait des recherches personnelles, au-delà de ce que beaucoup d'autres font d'ailleurs. Et il a voulu ne pas se tromper, il a raison d'être prudent. Mais sa conclusion à cette question est solide. Jésus agit comme Dieu et reçoit l'adoration comme Dieu. Mais ça a toujours été controversé. Jésus a suscité des controverses. Si aujourd'hui il y a des gens qui disent « Ah oui, Jésus c'était quelqu'un de bien », vous savez qu'à l'époque ce n'était pas comme ça. Ils étaient soit furieux contre lui et voulaient le tuer, ou alors ils étaient vraiment dans l'adoration devant lui, reconnaissant comme Dieu, il se prosternait devant lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient entre les deux pôles. Opposition totale ou adoration totale. Mais lisons la suite. Puis Jésus dit, verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Les aveugles voient, l'homme en question, l'aveugle, depuis sa naissance, il a vu. Physiquement, il a vu, mais il a aussi reçu une nouvelle perception spirituelle de la vérité, une vision spirituelle, une compréhension des choses. C'est lui qui voit clair dans l'histoire. Tandis que ceux qui pensent voir, parce que leurs yeux fonctionnent bien, ils ne voient pas qui est Jésus. Et le péché qui demeure chez eux, c'est quel péché ? Celui de rejeter Jésus. De ne pas croire en lui. Ils étaient là, ils le voyaient, mais ils ne voulaient pas croire qu'il était Dieu présent parmi nous. Ils refusaient de venir à lui pour avoir la vie. Alors qu'est-ce que Jésus a dit ? Il ne les a pas frappés de cécité, bien entendu. Mais au final, Jésus a annoncé qu'il resterait dans leur aveuglement. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce que notre intelligence naturelle n'est pas la même chose qu'une intelligence spirituelle. Vous savez, il y a des hymnes célèbres. Un d'eux s'appelle « Amazing Grace ». C'est un chant écrit en anglais. Et l'auteur de ce chant a exprimé par ce chant sa propre expérience. Et voici ce qu'il dit. « J'ai été perdu, mais j'ai été retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Je sais, c'est assez humiliant de devoir déclarer ça. Et je pense que c'est ce qui freine beaucoup de nous. C'est notre orgueil, notre amour propre. De devoir dire, en fait, je suis perdu. Je suis aveugle. Mais c'est à ces moments-là, quand nous reconnaissons notre besoin de Dieu, devant lui, que Dieu vient à notre secours. Alors, il ne faudrait pas avoir des préjugés et penser que tous les croyants sont des idiots. Hein, d'accord ? Il n'y a pas que des aveugles, des gens très simples qui ont cru en Dieu. Un jour, ma femme a invité une amie à l'église qui n'était jamais venue à une église protestante comme la nôtre. Et ce qui l'a frappé, cette amie, elle a dit après, elle a dit, tu sais, ce qui était étonnant, ce qui m'a étonné à l'église, c'est que vous aviez l'air intelligent. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de rencontrer à l'église protestante. Elle était frappée que les gens n'étaient pas tous des abrutis. Donc, je ne voudrais pas avoir des préjugés et penser que ce sont juste des personnes idiotes qui croient en Jésus-Christ. Mais il ne faudrait pas non plus avoir un préjugé dans l'autre sens et penser que, ah non, ils sont trop intelligents pour croire. Il y a des gens très érudits qui croient et il y a des gens très simples qui croient. Et en fait, les deux sont les bienvenus. La foi n'est pas contre la raison, mais la différence de la raison. Et donc, j'aimerais vous inviter à avoir cette sagesse, cette intelligence spirituelle, sachant que vous ne l'aurez pas en vous-même, mais que si vous la demandez, vous pouvez la recevoir. Alors je termine donc, avant de rendre le micro à Olivier pour la suite, je veux juste évoquer brièvement votre réaction. Nous devons réagir par rapport à cela. Nous avons entendu aujourd'hui que Jésus est celui qui guérit les aveugles, ouvre l'intelligence pour comprendre des mystères spirituels que les gens n'auraient pas compris, les disciples, les aveugles n'auraient pas compris sans que Jésus agisse. On a compris que Jésus est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alors on comprend alors que venir à l'Église, ou même se faire baptiser, c'est un peu faible comme réaction. C'est bien trop peu. C'est comme si tes parents t'offraient un nouvel iPhone, flambant neuf, et que tu disais, ah non, ça va. Moi je vais juste prendre l'autocollant Apple et je vais le coller sur mon classeur à l'école. Non mais attends, je t'offre un iPhone là. Jésus qui meurt à la croix, qui ressuscite d'entre les morts, qui fait miséricorde à tous ceux qui le demandent, qui sauve éternellement du jugement et de la mort éternelle, on ne peut pas rester indifférent. On doit répondre. Alors si vous êtes au début de votre recherche, On vous offre simplement un évangile à lire. Il y a des évangiles qui sont juste là, près de la porte, à la sortie. Vous pouvez vous servir l'évangile de Luc, l'évangile de Jean sont disponibles. C'est la même chose que ce qu'il y a dans la Bible. Et vous pouvez les prendre simplement pour lire pour vous-même ce que c'est la vie de Jésus. Comment est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il a parlé? Comment est-ce qu'il a agi envers les gens? Quelle était son attitude? Et à travers cela, je suis sûr que vous comprendrez, que vous verrez qui est Jésus. Mais c'est possible aussi que vous ayez des questions concernant la souffrance ou l'hypocrisie dans l'Église, ou des questions sur la sexualité ou la science, plein de questions que nous n'avons pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Et bien justement pour cela, il y a ce livre-là que je vous offre, l'histoire de Dieu, du monde et vous. 3, 2, 1. J'ai quelques exemplaires aussi gratuits à vous offrir. N'hésitez pas à venir me le demander. Je vous le donne aujourd'hui. Et il traite de ces questions-là de manière très brève, mais pertinente, pour essayer de répondre à des questions qu'on a parfois autour de la foi et autour de l'Église, même si ça ne concerne pas directement Jésus. Mais sinon, tout simplement, la réaction que nous devons avoir, basée sur ce que nous avons vu aujourd'hui, en voyant que Jésus est le Fils de Dieu, nous devons l'adorer, comme l'homme qui s'est prosterné devant lui, l'adorer comme Dieu, demander sa pitié, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne, et puis aussi lui faire confiance. Parce que Jésus a fait ses preuves, il mérite l'adoration. Il veut exercer la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu pour nous pardonner. Et il est digne de confiance. Alors, entrez dans la vie éternelle, commencez cette nouvelle relation avec Dieu aujourd'hui. C'est tout à fait possible et c'est absolument essentiel pour votre vie. Je vais prier. Et je vous invite à réfléchir ensemble. Père Céleste, merci d'avoir révélé qui tu es, parce que Jésus, ton Fils, est le reflet exact de ta nature, de ton être. Merci pour sa bienveillance. Merci qu'il était là pour faire du bien, pour se faire connaître, pour exercer sa miséricorde, et pour aller à la croix, mourir pour les péchés, ressusciter, donner la vie. Je te prie, Seigneur, que ceux qui n'ont pas mis leur confiance en toi puissent comprendre aujourd'hui qui tu es, avoir cette vision spirituelle nouvelle de toi, mettre leur vie entre tes mains, comme François l'a fait. Et que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres dans nos conversations, si nous sommes croyants depuis longtemps, à continuer à te faire confiance, parce que tu es digne d'adoration et de confiance, jour après jour. Amen.